BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles dans cette émission en direct tous les jours, bien aidée par d'autres rédactions, notamment celle du Revenu, tous les mardis avec nous. Bonjour Christian Fontaine.
Bonjour à tous.
Directeur délégué de la rédaction du Revenu avec nous pour réfléchir à vos liquidités. Vous avez peut-être 10 000 euros. 10 000 euros à placer quelque part, mais surtout à placer en ne prenant pas de risque ou le moins de risque possible. Christian, quelles sont les règles de base quand on a, cette jolie petite somme qui peut servir à plein de choses.
Oui, alors tout à l'heure, vous disiez effectivement, la première bourde à éviter, c'est de laisser dormir cet argent sur son compte courant. La deuxième bourde, c'est de vouloir placer cet argent comme son voisin. Et la troisième bourde, c'est toujours procrastiner, c'est remettre l'investissement à demain. Les règles d'or, en fait, il y en a deux. Le meilleur investissement pour vous, ça va dépendre de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à immobiliser cet argent. Et ça, on ne le dit pas assez. Le meilleur placement pour vous, ça ne dépend pas que de raisons, de facteurs techniques, de considérations techniques, ça dépend aussi de vos goûts. Il y a la moitié des Français, des auditeurs, des téléspectateurs qui sont plus bourse, placement financier, l'autre moitié davantage immobilier. Donc c'est très important en matière de placement, de finances personnelles, lorsque vous avez la chance d'avoir une prime, une petite donation, un héritage, de tenir compte de vos goûts en matière de placement. On ne peut pas dire que telle ou telle classe d'actifs soit donc par nature supérieure à l'autre, ça dépend de vos préférences. Donc il y en a qui sont plus PR, il y en a d'autres qui sont plus bourse. Et donc si vous avez 10 000 euros de liquidité à placer en avril 2024, il faut tenir compte de ces considérations.
On va continuer à articuler une réflexion sur cette somme de 10 000 euros, mais la chose importante, c'est qu'on ne veut pas prendre de risque.
Ça, c'est pas un critère dans l'absolu, c'est le critère numéro un des Français. Lorsque vous leur posez la question quel est le premier critère de choix d'un bon placement pour vous, c'est l'absence de risque qui arrive en numéro un avant même la performance, et c'est essentiel. Et donc forcément, si vous ne voulez prendre aucun risque, ça m'amène à vous parler bien sûr des livrets réglementés, livret A, LDDS, livret d'épargne populaire qui peut ou prou quand même, or, en tout cas jusqu'à l'année prochaine, donc pour les livrets accessibles à tous, rapporte tout de même 3%, ce qui n'est pas négligeable. On est au-dessus de l'inflation qui en mars était légèrement au-dessus de 2% en rythme annuel. Surtout que ces placements populaires, ils sont sans risque, garantie de l'État. Ils sont sans impôts, ils sont sans frais, ils sont sans prélèvements sociaux. Donc ça fait quand même, je dirais, si en face de ça vous mettez une rentabilité qui en ce moment est supérieure à l'inflation, ça fait quand même pas mal d'atouts pour ces placements. Alors la question qui se pose, c'est que c'est le livret A, l'encours donc des Français sur le livret A peu ou prou a doublé en 20 ans. Donc ça signifie que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont au plafond. Donc la question qui se pose, c'est que si j'ai 10 000 euros à placer, bien sûr, il faut tenir compte également des placements que vous avez déjà. Si votre livret A est au plafond, si votre LDDS est au plafond, il faut, je dirais, prendre la direction des autres placements liquides qui vous permettent de récupérer votre argent à tout moment et sans risque. On pense bien sûr aux livrets fiscalisés qui sont plutôt proposés par des établissements 100% en ligne. Les banques à réseau, les banques traditionnelles ne sont pas forcément très compétitives sur cette niche de produits. Vous pouvez obtenir du 3-4%, donc c'est plutôt satisfaisant. Attention, c'est avant impôts et prélèvements sociaux là-dessus. Donc, peu ou prou, vous devez défalquer et réduire une trentaine de pourcents. Et puis, vous avez aussi les comptes à terme. Et ça, c'est une autre famille de placements pour vos liquidités sur lesquels les banques traditionnelles sont généralement assez compétitives. Le taux de rémunération, dépend la durée de l'engagement. Un contrat à terme, c'est un document contractuel que vous signez avec votre banque et qui s'engage à rémunérer votre argent à un taux convenu à l'avance en fonction de la durée de blocage de votre argent. Contrairement au livret fiscalisé, si vous retirez votre argent avant l'échéance du placement, vous aurez une pénalité. Mais le bonus par rapport au livret fiscalisé, c'est que comme il s'agit d'un contrat, le taux est garanti à l'avance, même si la Banque centrale, par exemple, la BCE, annonce une baisse ou une évolution de ces taux au mois de juin. Donc ça, c'est un élément clé. Puis dans cette grande famille, donc lors des placements monétaires, il reste bien sûr les six caves monétaires.
Alors, que penser aussi des six caves monétaires qu'on appelle aussi six caves de trésorerie?
Voilà. Ben, que penser, c'est qu'aujourd'hui, c'est un placement qui a, avec la baisse des taux, a été fortement délaissé. À une époque, souvenez-vous, hein, il rapportait même moins que les frais de gestion. Donc c'était un taux de rendement négatif. Aujourd'hui, le taux, il est plus que positif puisqu'il tourne autour des 4%, donc moins 30% de prélèvements fiscaux et sociaux.
On peut dire qu'il retrouve des couleurs avec l'inflation.
Ben, il retrouve, on ne peut plus, des couleurs avec nos couleurs, grâce donc, au niveau actuel des taux d'intérêt. Alors, est-ce que ça va perdurer ou non, ça on verra. Mais en tout cas, c'était un placement vedette du début des années 90 qui redevient donc alors à la mode et qui est de nouveau intéressant.
On est sur le court terme.
Alors, c'est un placement qui peut convenir sur des périodes plus longues, mais c'est un placement qui coche toutes les cases pour un placement de courte durée, parce que donc, alors, il est sans risque, parce que il est avec des frais raisonnables et une fiscalité compétitive. Tout à l'heure, on parlait donc, alors, de l'étude de Norcia sur les placements les plus utilisés par les Français au premier trimestre. Ben, il y avait les six caves monétaires, donc c'est vrai que c'est un placement qui répond à la fois aux besoins de sécurité des Français et aux besoins de performance et de rendement, puisqu'il rapporte autour de 4%. Donc, on est largement au-dessus de l'inflation. Ça fait clairement partie donc, des placements vedettes en ce début d'année 2024.
Voilà, les SICAV monétaires. On rappelle, hein, une SICAV, c'est une société d'investissement à capital variable. C'est bien parfois de rappeler ce que signifient les acronymes.
Bon. Panier, donc, alors, de titres monétaires qui peu ou prou, donc alors c'est un panier qui progresse chaque jour un tout petit peu.
Si on veut prendre un tout petit peu de risque.
Ben, si vous voulez prendre un tout petit peu de risque avec vos 10 000 euros, ça, je ne vais pas vous surprendre. Donc, vous ouvrez...
Tout en Bitcoin.
Alors, tout sur le Bitcoin, pourquoi pas? Donc, alors, à condition d'accepter la volatilité du placement, puis verra, on posera la question tout à l'heure à Amaury pour voir ce qu'il va nous dire. J'aurais tendance à dire tout sur un contrat d'assurance vie de bonne facture en appliquant la fameuse répartition gagnante du revenu, d'ailleurs assez proche de la répartition adoptée par les Français en ce début d'année, 60% sur le fonds en euros à capital garanti et 40% sur des unités de compte investies en bourse. Alors pourquoi c'est la répartition un peu gagnante? Parce qu'en fait, si vous maintenez ce type de répartition pendant plusieurs années, pendant une bonne dizaine d'années, peu ou prou, vous ne pouvez pas perdre d'argent, et puisque en fait la poche sans risque donc, va se valoriser donc, à hauteur du montant de votre investissement initial, et puis c'est surtout la répartition gagnante, ça devrait vous assurer sur longue période un gain annuel moyen entre 4 et 5% avec une inflation à 2%. Ça vous fait du 2 ou 3% de gain net de hausse des prix par an. Donc c'est plutôt très satisfaisant. Alors vous allez me dire, oui mais ça on est dans le domaine des placements financiers. Vous êtes peut-être un peu moins placement financier et un peu plus placement immobilier. Vous avez 10 000 euros à placer. Bien sûr, donc c'est un ticket qui est assez qui est significatif, qui vous permet d'investir dans la pierre papier, des foncières cotées en bourse, particulièrement dévalorisées en ce moment, des SCPI, des EPCI. Et puis, parce que les Français aiment bien aussi l'immobilier physique, 10 000 euros, c'est largement suffisant pour investir dans une cave, dans des grandes villes qui rapportent autour de 10%. Voilà. Et puis, je veux aussi vous parler de parking. Parce que pourquoi vous parlez de parking? Parce que lorsque vous signez un bail avec un locataire d'un parking qui n'est pas lié à un logement, en fait vous fixez librement les conditions du contrat, c'est-à-dire le montant du loyer, les conditions de revalorisation, les conditions de garantie et les conditions de résiliation. Donc vous voyez, vous échappez donc, alors, au carcan réglementaire de la loi de 89 qui régit donc, alors, les relations entre les bailleurs et les propriétaires, vous échappez à l'encadrement des loyers, vous échappez à toutes les contraintes donc, alors, énergétiques donc, alors, qu'on impose aujourd'hui aux bailleurs qui louent un logement. Donc oui, louer un parking, plutôt être propriétaire d'un parking et ensuite le donner en location, ben, ça rapporte gros, on va dire, entre 6 et 8%, et vous n'avez pas peu de problèmes d'impayés, peu de problèmes dégradation. Dans les grandes villes de province, hein, toujours le montant d'investissement de départ, 10 000 euros, ça peut suffire pour investir dans un parking. À Paris intramuros, ce n'est pas suffisant, il faut plutôt tout compter entre 20 et 40 000 euros, voire bien davantage. En première couronne parisienne, tout dépend des villes, mais dans l'ouest parisien, c'est plutôt entre 20 et 25 000. Mais rien ne vous empêche, là, vous faites une petite opération, tout pour investir, on est dans une émission patrimoniale, donc vous pouvez, je dirais, emprunter une partie de l'argent nécessaire à vos investissements et vous profitez de l'effet de levier crédit. Pour, je dirais, gagner davantage, même si dans un premier temps, donc les loyers versés par le locataire de votre parking, qui peuvent être deux d'ailleurs en cas d'une moto, ben, on vous servira à rembourser la banque. Il faut bien voir que si c'est l'immobilier qui vous intéresse, vous avez donc effectivement les câbles, les parkings, et puis vous avez aussi quand même dans un certain nombre de villes de province, d'après la dernière étude de Meilleurs Agents, dans des villes comme Limoges, dans des villes comme Pau de mémoire, même Poitiers ou Brest, pour 10 000 euros d'apport, vous pouvez acheter un studio qui va s'auto-financer, donc vous allez compléter avec un crédit sur 20 temps et le loyer que vous encaissez chaque mois sera suffisant pour rembourser la banque, sera peu ou prou égal à la mensualité du prêt accordé par la banque pour compléter cet investissement. Donc vous voyez qu'avec 10 000 euros de liquidité, ben on peut faire des tas de choses, donc plus ou moins risquées pour effectivement en fonction de vos goûts, en fonction, je dirais, de la période pendant laquelle vous voulez investir cet argent et du gain potentiel.
On a parlé un petit peu de crypto tout à l'heure en disant que ça pouvait être une piste de diversification. Moi, vous savez, je vais vous parler de montres. Avec 10 000 euros, on peut investir dans une jolie montre déjà.
Bien sûr, avec 10 000 euros, on peut se faire plaisir. On peut acheter une première montre de collection, neuve ou d'occasion. Vous avez toutes les marques éponymes à partir du moment où offre nos couleurs, des tickets, nos couleurs d'entrée en dessous de 10 000 euros. Et puis à partir du moment où c'est des montres, je dirais, qui se revendent sur le marché secondaire, entre guillemets, ou aux enchères, 10 000 euros, c'est largement suffisant pour se faire plaisir à soi-même ou offrir donc alors une montre, une première montre de collection à un proche ou à une proche, bien sûr.
Bon, on aurait pu parler du vin aussi, il y a de quoi se constituer une jolie cave pour le futur et le court terme.
Alors on aurait d'autant plus mieux fait, ou on peut d'autant plus parler du vin que c'est un sujet qui va revenir d'actualité, puisque au mois de juin donc, alors, va commencer la commercialisation des vins en primeur, hein, donc c'est-à-dire des vins qui auront été, des raisins qui auront été récoltés donc, alors, en août et en septembre de l'année dernière, donc c'est un vin qui va être commercialisé alors qu'il est encore en barrique, qui est encore en cours d'élevage, mais vous allez pouvoir l'acheter dès le mois de juin. C'est surtout un mode de commercialisation pour les Bordeaux. Les bouteilles vous seront livrées que dans 2 ans, mais ce mode de commercialisation de l'achat de vin en primeur vous permet, je dirais, d'abord d'acheter des grands châteaux dans une belle caisse en bois, et puis ça vous évite donc alors de devoir faire la course avec votre caddie donc alors dans les foires au vin à la rentrée. C'est aussi un mode de commercialisation qui vous permet en fait chaque année d'acheter les grands crus d'un même château et ensuite d'organiser avec vos amis, avec vos proches, des verticales, c'est-à-dire consiste à goûter donc alors un même vin mais d'une année différente. Et sinon notamment dans la grande distribution, il y a très peu de suivi au niveau des référencements, donc c'est pas si facile que ça d'acheter chaque année le même château. Vous avez entièrement raison, avec 10 000 euros, on peut se faire plaisir, on peut investir, on peut donner du sens à son épargne, et il y a des gros groupements fonciers forestiers, il y a des groupements fonciers viticoles, où l'investissement dans des bouteilles en primeur, les relevés de prix effectués chaque année par le revenu montrent que cela permet de réaliser une bonne affaire. Et en fait, le seul petit bémol, c'est qu'il faut plutôt investir dans des bouteilles qui ont... Plus vous investissez dans des bouteilles qui sont chères, plus potentiellement vous pouvez gagner. Et bien sûr, il faut laisser le temps au temps. C'est pas en investissant dans du Bordeaux primeur 2023, en juin, c'est pas en le revendant donc dans 2 ou 3 ans que vous allez réaliser une plus-value, mais c'est plutôt en le revendant dans 10, 15 ou 20 ans.
Une question que j'aurais pu vous poser plus tôt, c'est Clémence qui nous a écrit. Elle pose une question sur le PEA, mais je trouve qu'elle se prête bien cette question à la discussion qu'on a pour conclure. Elle souhaiterait, comme conseiller dans cette émission, investir régulièrement de petites sommes sur son PEA. Mais elle nous dit, chaque versement déduit des frais, à partir de quelle somme, quels frais prélevés par opération peut-on estimer que le coût en vaut la peine si on souhaite investir tous les mois? Si on a ces 10 000 euros justement et qu'on veut faire de l'investissement programmé, est-ce qu'il y a une somme optimale et à verser par mois pour pas, un sujet qui vous est cher, se faire trop taxer, trop de frais plutôt?
Alors, il y a plusieurs sujets. En fait, l'avantage d'investir un tout petit peu chaque mois, c'est d'éviter donc, alors, d'investir dans un point haut. Donc, vous investissez, par exemple, pour votre auditrice ou téléspectatrice, si elle a 10 000 euros, elle pourrait très bien investir 1 000 euros en bourse par mois au cours des 10 prochains mois. Ensuite, il y a la question des frais. Ben, tout dépend, le support d'investissement dans lequel elle va investir. Et puis tout dépend de la tarification de son intermédiaire. Peu ou prou, dans l'absolu, il faut qu'elle ne dépasse pas 0,1 à 0,15% de frais de courtage. Alors il peut y avoir, selon les établissements financiers, des minimums fixes. Et c'est vrai que, mais il y a de plus en plus d'établissements financiers, notamment des courtiers 100% en ligne, qui ne pratiquent pas de minimum. Donc il est aujourd'hui, compte tenu des tarifications actuellement proposées par les banques en ligne ou même par les grandes banques à réseau, investir une petite somme chaque mois, si on prend ces précautions, ne coûte pas plus cher qu'investir une grosse somme d'un coup.
Voilà Clémence, j'espère qu'on vous a répondu. En tout cas, les conclusions, c'est si vous avez 10 000 euros, ne mettez pas vos 10 000 euros d'un coup sur un PEA, programmez vos investissements sur les prochains mois. Ne laissez pas ces 10 000 euros sur votre compte courant. Ne faites pas comme votre voisin ou votre voisine. Et puis, ne procrastinez pas.
Voilà, il y a si vous avez 10 000 euros à placer, il y a des tas de choses à faire pour gagner 4, 5, 6% en fonction, je dirais, de vos goûts en matière de placement et niveau de risque que vous acceptez de prendre.
Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu, avec nous tous les mardis dans Tout pour Investir et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en podcast et en replay. Cette séquence est à retrouver indéfiniment sur notre site web et notre application.